This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Twitter fait enfin quelque chose d'intéressant et l'intelligence artificielle est prête à être régulée, légiférée, au moins dans l'Union européenne. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Toutes les semaines, je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 509 et nous sommes en avril 2023. Je suis très heureux d'accueillir, comme tous les mois, mes deux co-animateurs préférés. D'une part, Marion, qui est là à Paris, hein, juste à côté. Donc voilà, on est à l'aise tous ensemble. Comment ça va, Marion ?
Bah, très bien, très bien. Petit rhume, comme il faut bien en avril. Mais ouais, tout petit, un peu vicieux, mais ça va, j'ai la forme. Et toi, Patrick ?
Écoute, ça va, je porte un masque devant le micro, donc tu ne devrais pas m'infecter. Je pense que ça ira. Et on a aussi...
Les kilomètres sont un bon masque.
C'est ça, oui, exactement. On fait... Comment... Merde, j'ai déjà oublié les termes, le vocabulaire de la pandémie.
La distanciation sociale.
Exactement, on fait de la distanciation sociale dans le podcast depuis longtemps. On était en avance sur notre temps. Et je pense que la personne avec laquelle on fait le plus de distanciation sociale, c'est Jeff, qui nous rejoint comme chaque mois de la Silicon Valley. Salut Jeff, comment vas-tu ?
Salut, je vous rejoins aujourd'hui de San Francisco dans mon bureau que je visite très rarement. Et donc pour une fois, aujourd'hui, je suis dans la grande ville où il ne fait pas super beau. Mais bon, ça va. Écoute, et je n'ai pas mon masque parce que je n'ai pas besoin de mon masque pour faire un podcast.
Mais tu sais, c'est dingue. J'étais à Paris il y a un mois. C'est fini, hein, plus personne porte de masque. Et enfin, ce qui est différent, c'est que j'avoue que moi-même, j'en ai presque pas porté. Je pense que petit à petit, tout le monde... Aussi quand même dans le métro. Pas déconner,
c'est le ménage. J'ai fait un voyage sur le Brésil il y a 12 jours. Et littéralement, je crois que j'étais le seul à avoir à porter un masque à l'aéroport au Brésil. Et les gens m'ont regardé du genre, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il a ça sur la tronche ? C'était un peu bizarre. Ouais. Mais non, je portais mon masque et je pense que je vais le porter à chaque fois que je voyage parce que c'est vachement plus safe.
Ouais. Je crois que j'étais déjà dans cette situation où d'autres portaient le masque, portaient pas le masque et moi je le portais. Et là, c'était vraiment dans les situations très très spécifiques où je le portais. Donc, je sais pas là. Mais ce qui a changé, bon, il faut qu'on parle de tech hein, dans une seconde. Mais ce qui a changé, c'est que j'y pense plus tout le temps à la pandémie. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Peut-être que les auditeurs hochent la tête en même temps. Depuis quelques mois, je dirais 2-3 mois. C'est plus tout le temps dans ma tête, genre les masques, où on en est, combien de contaminés, combien, quand est le prochain rappel du vaccin, etc., etc. Et j'y pense plus trop, quoi. Donc,
Maintenant, c'est de la roulette russe, c'est-à-dire que les chiffres sont tellement bas qu'il y a une probabilité relativement faible d'être contaminé, mais c'est pas négatif, quoi. Tu continues à avoir des gens qui disent « Ah bah tiens !»
Ouais. Ah bah d'ailleurs, nous, Noël, pareil. Moi j'ai été complètement...
J'espère nous, par exemple, avez... à chaque fois qu'on est en personne, donc là, je suis avec toute mon équipe, on est 7 au bureau toute la journée, et tous les à chaque fois qu'on se retrouve, on teste. Et comme ça, ça permet d'être super secure, et je pense que c'est une bonne approche. Sécurité.
Très bien. Bon, cette petite parenthèse pandémie étant refermée, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui ont rejoint les Patreons. Depuis la semaine dernière, il y a Martif, Éric Crambe, Nicolas Lessac et Clément Marius. Merci à vous quatre. Vous êtes les héros, les super-héros. Alors, je ne sais pas si vous êtes côté Marvel ou DC. Les deux, en ce moment, ce n'est pas formidable. Donc, on va dire vous êtes les super-héros du podcast. Martif, Éric Crambe, Nicolas Lessac et Clément Marius. Et en plus, les producteurs SSI78 et Peter Rigal, les producteurs vaillants, qui sont un petit peu les Nick Fury des Avengers réunis, que vous êtes tous ensemble. Et du coup, bah, je vous propose qu'on se lance dans les infos à retenir de cette semaine. Et il y a des trucs intéressants. Alors oui, on parle de Twitter et on parle d'IA, mais il y a des trucs différents, intéressants. Et justement, intéressant, bah, Twitter fait quelque chose enfin d'intéressant depuis le rachat par Elon Musk. Alors je suis un petit peu joueur en disant ça, mais je trouve qu'il y a, je ne sais pas si c'est un potentiel, mais bon, je vous explique. Il y a deux choses. D'une part, Twitter a annoncé avoir ajouté une fonctionnalité pour les utilisateurs abonnés à Twitter Blue, qui est de lever la limite de nombre de caractères utilisables dans un tweet à 10 000. Alors 10 000, on est niveau blog, hein, même largement plus. Là, on peut faire un truc qui est vraiment un texte réfléchi, un article. Il y a aussi du formatage en italique et en gras. Donc, on peut vraiment formater son truc. On se souvient qu'ils ont ajouté également des vidéos plus longues et en qualité supérieure. Alors ça, comme pour le texte très long, il y a des bugs, hein, il y a des gens qui voient des pages et des pages s'afficher dans leur flux et pas la version réduite, enfin la version limitée du tweet, donc ils doivent scroller pendant des heures. Bon, tout ça, ça va être réglé. Mais c'est lié au fait qu'ils ont retravaillé les abonnements offerts aux utilisateurs. Alors là, je ne parle pas de Twitter Blue, mais les gens qui sont abonnés à Twitter Blue peuvent faire une sorte de Patreon dans Twitter et demander aux gens qui les suivent sur Twitter de les soutenir financièrement. Ça s'appelait Superfollows, ça s'appelle maintenant Subscriptions, donc abonnement. Et c'est un moyen de monétiser votre présence sur Twitter avec alors, des tweets exclusifs, peut-être des tweets de 10 000 caractères exclusifs, des vidéos exclusives, etc. Mais en tout cas, de générer du soutien financier sur Twitter en tant que plateforme. Et en plus de ça, Elon Musk a annoncé qu'il allait reverser aux gens qui auraient des soutiens l'intégralité de la somme qui leur reviendrait à eux à Twitter, donc moins les frais de plateforme, etc. Pendant un an, il reverse l'intégralité de la somme aux gens qui créent ce type de formule d'abonnement. Donc vraiment, l'idée, c'est de séduire les créateurs de contenu et de faire de Twitter une plateforme de destination plutôt que de partage de liens, ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça peut... Enfin, moi, je trouve que, en l'occurrence, c'est une idée qui est intéressante. Je ne sais pas si ça pourrait fonctionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut attirer des gens? Peut-être que je vais poser la question à Marion en premier. Comme tu es dans l'économie des créateurs de contenu, tu as un pied là-dedans. Qu'en penses-tu?
Ce qui est difficile, c'est que Twitter vient d'un modèle qui était à l'origine gratuit, en tout cas monétisé par la publicité. Et du coup, on se retrouve quand même avec une réaction assez protectrice et méfiante, du genre, il y a des choses que je faisais avant, que maintenant il faut que je paye pour ça. Alors là, il y a des nouvelles fonctionnalités quand même, liées à ces abonnements, et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Maintenant, je trouve que Elon Musk a l'air de s'être mis à dos pas mal de monde. Je trouve ça intéressant dans l'initiative. Je trouve que ça cafouille beaucoup depuis plusieurs mois et je me demande dans quelle mesure les gens vont être prêts à faire confiance à Elon Musk pour s'embarquer à utiliser un de leurs nouveaux services qui, évidemment, ils font la promesse cette année de reverser l'intégralité des revenus pour mieux les prélever les années suivantes. Il ne faut pas être naïf. Donc, ils ont tout intérêt à ne rien prélever cette année. Mais du coup, vu l'historique d'Elon Musk... je ne sais pas dans quelle mesure c'est un terrain de confiance très fertile ici. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Bah, disons qu'effectivement, en tant que créateur de contenu, se lancer sur une plateforme, quelle qu'elle soit, c'est engager et lier son avenir à cette plateforme. Donc oui, c'est une plateforme qui existe déjà, qui est établie et qui, quoi qu'on en dise, reste très utilisée. Mais oui, si on me dit « tu construis une source de revenus sur Twitter », ça veut dire que tu es lié à l'avenir de Twitter d'une certaine manière. Donc, effectivement, ça peut être une décision difficile quand on sait la manière dont est géré Twitter ces derniers mois. Jeff, oui, pardon, vas-y.
On peut même faire le bond, tu es lié à l'avenir de Twitter, mais tu es également lié ou tu supportes les prises de position de Twitter sur certains sujets. Je ne sais pas si tu as... Oui, bah, c'est toi qui l'avais mis justement l'interview du créateur de Substack.
Tout à fait.
Par le CEO de The Verge. Je veux dire, en tant que créateur, je n'ai pas forcément envie d'être associé à quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, le racisme, ce n'est pas bien.
Ouais. C'était une interview assez édifiante qui a été extraite en short. Vous savez que Substack, donc le service de newsletter avec abonnement également, a lancé son concurrent à Twitter qui s'appelle Notes, qui est intégré à Substack. Donc ils l'ont lancé, ils ont donné à cette occasion une interview à The Verge avec Nilay Patel, qui en est le rédacteur en chef et la personne la plus haut placée. Et il lui pose une question, c'est assez lunaire. À un moment, Nilay Patel lui dit « Alors, si quelqu'un avec votre produit, Notes, commence à dire les gens de couleur sont des animaux et il faudrait les sortir du pays à coups de pied ou ce genre de choses. Et est-ce que vous modérez ce contenu ? Et Chris Best, donc le CEO de Substack, bafouille, n'arrive pas à répondre. Et le truc, c'est que la manière dont c'était formulé à la base, après, ça a été un petit peu élaboré, mais à la base, effectivement, on peut au minimum donner une réponse un peu plus claire, même si, sur le principe, ce qu'il veut défendre, Chris Best, c'est le fait de dire, bon, bah, un argument qu'on a souvent, qui est, nous, on est une plateforme, on ne veut pas intervenir, on ne veut pas être forcé à être juge, mais bien sûr, s'il y a une décision de justice, on intervient. Enfin, il y aurait mille manières de répondre. Et ce que fait Chris Best, c'est, je ne veux pas, on ne veut pas, non, alors... Et il répond plus ou moins ensuite, et c'est une réponse qui est très mauvaise. Mais... Oui, on est complètement... Du coup, il y a plein de gens qui se sont dit « Attends, cette plateforme, je ne sais pas si je veux m'associer à ça. » Et pour Twitter, c'est un petit peu la même chose. On est associé à ce que fait Elon Musk, finalement. Et du coup... Ça peut être... Mais sur le principe, moi, je me dis que l'idée que Twitter devienne une destination plutôt qu'un passe-plat de liens, il y a quelque chose derrière sur le principe. Maintenant, ce n'est peut-être pas Elon Musk qui est la meilleure personne pour implémenter ça. Jeff, tu serais prêt à t'abonner? Par exemple, demain, j'ouvre les Patriotes sur Twitter. Vous pouvez vous abonner sur Twitter directement pour me soutenir. Est-ce que, enfin moi ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu serais prêt à t'abonner sur Twitter?
Non, parce que, comme le disait Marion, j'ai zéro confiance dans Elon Musk. Et il dit qu'il va te donner tout l'argent, mais il ne le fera pas. Parce qu'il change d'avis comme de chemise et... c'est un clown, donc c'est un mec en qui j'avais énormément de respect, pour qui j'avais énormément de respect avant, parce que ce qu'il a fait chez Tesla et ce qu'il a fait chez SpaceX, c'est extraordinaire, mais son caprice de racheter Twitter et de le foutre en l'air et de virer 7000 personnes et maintenant d'utiliser en fait Twitter comme son outil de propagande personnelle où maintenant il y a du code spécial pour amplifier les tweets de
la fameuse catégorie Elon Musk dans
l'algorithme de l'empereur parce que il veut être le plus visible, c'est du grand n'importe quoi, je veux dire. C'est un caprice de milliardaire et donc quoi qu'il fasse aujourd'hui, de toute façon il va changer d'avis 3 fois, 10 fois, 100 fois et donc il n'y a aucune stabilité possible sur Twitter tant qu'il est à la tête et tant qu'il est propriétaire, parce que même s'il avait un CEO qui prenait la main, de toute façon, il continuera à prendre des décisions au niveau du produit. Et donc, c'est du grand n'importe quoi. C'est embarrassant, quoi.
Bon, je crois que la question de la confiance est effectivement le... Ce qui est terrible, c'est que ce genre de feature qui aurait été implémenté par le passé, ça aurait pu être intéressant et attirer des gens. Encore qu'il y a un autre débat qu'il est possible d'avoir également, c'est de dire que ça change la nature de la plateforme, qui est effectivement un passe-plat de liens et tout le monde lit vers les tweets longueurs et les Patreons et les YouTube, etc. Et donc, c'est la nature de la plateforme peut être modifiée par ces changements qu'initie Elon Musk. Si on avait implémenté ce genre de changement. Mais ça reste, à mon sens, intéressant à voir si ça donnera quelque chose. Je pense qu'il y a des gens qui n'auront aucune hésitation à lier leur avenir à Elon Musk. Je ne sais pas si ça sera ceux
qui seront le plus
heureux de suivre.
Clairement, tu vois de passage de la gauche américaine vers la droite américaine, des libéraux vers les conservateurs. Et donc, les conservateurs sont très contents de voir ce que fait Elon Musk. Et le problème, c'est que il n'y a plus de respect de quoi que ce soit. Je veux dire, c'est... c'est un Trump avec une UI un peu différente, quoi.
Donc, ça affecte évidemment l'ensemble du projet. Et d'ailleurs, on parlait d'interview. Il y a eu un space où Elon Musk a parlé avec un journaliste de la BBC où il disait, c'est intéressant d'ailleurs qu'il parle avec la BBC, mais il disait que Twitter est à l'équilibre financier. Évidemment, c'est avec une et que les publicitaires sont de retour et qu'on n'a jamais eu autant de trafic sur le site. En attendant, les sites d'analyse et les cabinets d'analyse qui ont des données partielles mais statistiques qui sont souvent assez fiables, mais pas fiables à 100%, disent qu'au contraire, les rentrées publicitaires ont chuté. Alors, chuté de 20%, c'est pas que ça a chuté de 80%, mais ont chuté tout de même. Que de nombreux... alors, vous avez dû entendre les sons de Discord. Je m'en excuse, ça vient de chez moi. Je vais activer le mode streamer. Je ne l'ai pas fait parce que ça ne se fait pas automatiquement quand je ne stream pas. Mes excuses, ce n'est pas votre Discord qui sonne, c'est le mien. Et donc, il y a moins d'argent qui rentre, mais en même temps, il paye plus ses loyers. Il a renvoyé 80% de la boîte, donc peut-être qu'elle est à l'équilibre. Une autre question qui se pose aussi, c'est celle du trafic, où une boîte comme SimilarWeb, qui est un cabinet d'analyse, dit que le trafic a chuté, mais là encore, par rapport à l'année dernière, mais là encore, on n'est pas à des chutes vertigineuses, on est à des chutes qui sont entre 5 et 10%. Bon. C'est moins, ça, surtout ça contredit ce que dit Elon Musk. À qui on fait confiance ? Aux menteurs compulsifs ou aux gens qui font les analyses, je ne sais pas. À côté de ça, PBS et NPR, les médias dont on parlait la semaine dernière, qui ont été labellisés médias financés par le public ou financés par le gouvernement, ont arrêté de tweeter.
On va voir non, médias d'État, c'était médias d'État. En gros, c'était médias contrôlés par l'État. Et donc, c'est il a changé ça. Parce qu'il n'a pas réfléchi comme d'habitude, parce que le mec, il se gratte une couille, il a une idée, il envoie un email à 2h du matin et c'est implémenté le lendemain matin parce que les ingénieurs, ils ont
pas. Parce que l'empereur a dit.
Ouais, exactement. Ouais. Les ingénieurs, en fait, disent pas non. Et c'est pour ça que tu as une stratégie si décousue, quoi.
Et du coup, à voir si le mouvement est suivi par d'autres. Bon. Ils ont été particulièrement offensés, ce que je peux comprendre. On en parlait la semaine dernière, on a détaillé la chose, on ne va pas refaire le débat. Et la dernière news, vous pouvez parler de tout ça dans une seconde, mais la dernière news, c'est que Elon Musk a créé X.AI Corp. En gros, il se relance dans une aventure d'intelligence artificielle. Ils ont acheté des GPU, une dizaine de milliers de GPU, etc. Et il voudrait... semble-t-il, utiliser les données de Twitter pour entraîner leur IA. Bon, je ne sais pas si c'est la meilleure idée qui soit, mais pourquoi pas, ils ont accès à une énorme quantité de textes. Avoir une IA qui parle comme on parle sur Twitter, ça peut être effrayant. Mais c'est intéressant parce que, évidemment, Elon Musk faisait partie des fondateurs de OpenAI, qui est derrière ChatGPT aujourd'hui, et il a quitté le navire suite à un désaccord avec Sam Altman, son CEO actuel, en 2019, je crois. Donc, bon, le fait qu'il relance un truc d'IA maintenant, alors, pourquoi pas, hein, il ne faut pas être derrière trop... Parce qu'on est derrière, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais rattraper qui que ce soit, mais c'est rigolo de le voir quand même, donc... entre tout ça, les histoires de PBS et tout va bien chez nous, on est à l'équilibre et l'IA, si vous avez un commentaire là-dessus, c'est le moment. Je me tais, je vous laisse parler.
Bah, je veux dire, t'as tellement de façons d'essayer une approche comptable. Qu'est-ce que ça veut dire d'être profitable comme, on sait très bien qu'il y a eu un abandon des annonceurs massif à cause de toutes les conneries qu'il fait. Et donc, je ne crois pas la claim, on est profitable. Bon, de toute façon, c'est son argent.
Il dit qu'ils sont à l'équilibre, qu'ils devraient faire des profits, je crois, l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Mais tu vois ce qu'on
voit... Mais c'est vrai que...
Vas-y, Marie.
Juste pour rebondir quand même sur un métrique, une manière de mesurer qu'il utilise sur sa plateforme, il mentionne des minutes bien dépensées de son temps par les membres. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque session, tu demandes aux utilisateurs hey, « Est-ce que tu penses que tu as gaspillé ton temps en étant sur Twitter ?»
C'est les minutes non regrettées, c'est ça?
Voilà, exactement. C'est les minutes non regrettées. Merci, tu le formules très, très bien. comment tu mesures ça? Alors, est-ce que c'est parce que les gens ont cliqué sur un lien et donc ils ont engagé avec le contenu de Twitter et donc par de là, on peut en conclure que c'était bien dépensé? Enfin, moi, j'ai déjà engagé avec du contenu parce qu'il y a plein de spam et donc je signale du spam, par exemple, ouais. Ou juste en me désabonnant parce que franchement, c'est affligeant ce que je vois sur la timeline. Mmh. Donc du coup, peut-être qu'il a une catégorisation comme ça d'interaction positive qui montre que tu passes ton temps de bonne manière ou des interactions négatives qui montrent que tu regrettes finalement d'être venu. Donc peut-être que c'est ça. Mais c'est vrai que juste lancer ce nom de métrique sans expliquer le fonctionnement derrière ressemble vraiment un peu à du bullshit. Et tu me dis, bon, bah, c'est bon, il va arranger les métriques comme il veut pour toujours pointer quelque chose de positif sur la plateforme. Parce que de toute façon, ça ne va pas faire le beurre de Twitter de dire, ah ben non, en effet, nos stats ne sont pas très bonnes.
Oui, c'est sûr. Ceci dit, pour abonder un tout petit peu dans son sens sur la question de l'équilibre financier, les données qu'on a indépendantes d'analyse disent qu'il y a eu, sur les deux derniers mois, des rentrées de 83 millions de dollars, ça me paraît peu, mais 83 millions de dollars contre 102 millions l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est vrai que c'est une chute. Mais ce n'est pas une chute faramineuse, surtout si on prend en considération le fait qu'il a viré 80% de la boîte. Donc l'équilibre, moi, ça ne me paraît pas si surprenant de ça, finalement. Alors que
mais ça, je suis d'accord.
Tu vois?
Ouais. Ça, je suis d'accord. Et de la même manière, quand on parle d'activité sur la plateforme, on peut très bien se dire, bah, de toute façon, comme il a rétabli plein de comptes d'extrême droite, et bah, du coup, ça va accueillir et attirer un certain public. Donc, on peut se dire que d'un côté, ça va booster les interactions. Mais de l'autre, est-ce que c'est des interactions de qualité? Bah, ça, il n'a pas mentionné ces métriques.
Il a dit que ce n'était pas regretté. Donc, forcément.
Ouais. pas regretté pour qui? Pour l'extrême droite.
Bon, on va parler un petit peu d'intelligence artificielle aussi et des choses intéressantes qui se passent dans ce domaine, mais j'ai oublié de vous rappeler quelque chose d'essentiel, d'hyper important, c'est que Battle 4, c'est ce week-end, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est un événement caritatif qui a lieu tous les ans, enfin bon, depuis l'année dernière, et j'y participe en streamant en live sur Twitch, vous savez, Twitch, le site de service de streaming en live, et je vais pas du vendredi soir à partir de 6h30, retenez ça, venez sur twitch.tv/notepatrick, vendredi à partir de 6h30, et jusqu'à dimanche soir, et c'est un événement caritatif qui soutient et qui essaye de mettre en lumière les questions d'accessibilité et qui soutient Handicap International et Premier de Cordée, deux associations, et bah, c'est un événement caritatif où les spectateurs sont invités à donner des sous pour soutenir les bonnes causes, et donc on fait des trucs marrants, on fait des trucs intéressants, j'espère. Moi, par exemple, j'ai des niveaux de soutien, enfin des niveaux de goals pour les dons. Par exemple, si on atteint 1000 euros, l'année dernière, on était monté à 2000, c'était incroyable. Si on atteint, et l'événement lui-même avait fait genre 400 000, un truc comme ça, un truc de fou, mais le niveau 1000 euros pour cette année, c'est que je vais faire un live dans la forêt avec les loups. Alors, je sais pas si je trouverai les loups, mais je vais faire un live dans la forêt. Donc, si on atteint ce niveau, ça va être marrant. Il y a plein de donation goals comme ça, sympa. Et
alors, rien que pour cet objectif, je vais te soutenir, la Patrick. Franchement, juste pour avoir la chance de te voir tout seul dans la forêt en train de faire un live.
Essayer d'éviter les loups qui crient dans la forêt. Oh. Mais attends, il y a un truc en plus. Il y a un fil rouge que j'ai peut-être établi de manière un petit peu sans trop de considération. Si les gens donnent plus de 50 euros en un don, si quelqu'un donne plus de 50 euros, eh ben, je vais faire la somme totale moins 50 nombre de pompes. C'est-à-dire que si vous donnez 60 euros, je fais 10 pompes. Et si vous donnez plus, alors j'ai peut-être un petit peu mal calculé mon coup.
C'est un peu risqué. C'est
voilà,
un peu risqué.
Exactement. Je crains les petits malins qui vont se mettre à. Bon.
Il y a un groupe de potes qui va se cotiser pour
c'est
faire
ça,
un seul versement.
Exactement. Donc j'ai un peu peur. Alors je les fais pas forcément d'un coup, mais j'ai commencé.
250 euros, ça fait beaucoup de pompe.
Ben hein. Oui, ouais. Voilà. Mais écoute, j'ai normalement un week-end entier, donc je les ferai petit à petit par 5.
D'accord, tu dis.
Ben, c'est-à-dire que je peux pas vraiment faire 200 pompes.
C'est comme dans Top Gun Maverick, hein. Tu te fais choper, boum. Allez, 200 pompes.
Mais je ne peux pas les faire d'un coup, je veux dire, vous ne voulez pas que je meure en direct en live non plus. C'est parce que, je le disais la semaine dernière, il y a peu de gens au monde qui sont aussi peu en forme que moi aujourd'hui. Entre les enfants et machin, j'ai le temps de rien faire et surtout pas de me tenir en forme. Donc, bon, écoutez, si vous voulez assister à la catastrophe, vendredi soir. Il y a plein d'autres goals marrants, des activités sympas. Et je sais que Jérôme et Guillaume, ils seront aussi de Nowtech en live, eux, au Stade de France. Moi, je serai en
Et moi, je ferai un petit coucou samedi.
Super. Ah ben voilà. Donc, on est plusieurs à participer à Battle 4. Venez sur le compte Twitch, twitch.tv/notepatrick ce week-end. Je serai plus encore que l'année dernière en live, parce que ma femme prend les enfants à Helsinki chez sa mère. Donc, j'aurai tout le loisir de streamer plusieurs heures par jour. Je ferai autant que je peux. Bref, voilà. Ça, c'était pour Battle 4. Je tenais à vous le rappeler. Mais il y a encore des news. La news IA principale de la semaine, c'est que l'Union européenne commence à réfléchir à la législation qu'il faudrait appliquer à l'IA. Et c'est un truc que moi, j'applaudis des deux mains, parce que c'est un truc dont je parle depuis des semaines et qui est enfin assez évident, et depuis des mois. Il faut qu'on commence au moins, alors pas légiférer en deux semaines et faire n'importe quoi sur les trucs aux doigts mouillés, mais qu'on commence à y réfléchir et réfléchir à ce qu'il faudrait faire et la manière dont on devrait un petit peu baliser l'utilisation de l'IA. Alors, c'est des rumeurs à ce stade. On a des informations qui sont parcellaires et qui sont certainement en cours d'évolution. Mais quelques points intéressants que j'ai notés sur les pistes de réflexion qu'étudie le Parlement, c'est par exemple l'idée que les développeurs de modèles de langage comme ChatGPT, etc., ou d'images, ça s'appelle... Bon, bref, c'est de l'IA, devraient déclarer s'ils utilisent du matériel copyrighté dans leur modèle, dans l'entraînement de leur modèle. Alors évidemment, derrière, il y a l'idée que les propriétaires puissent s'opposer à l'utilisation ou être rémunérés pour l'utilisation, par exemple. Bon, ça change beaucoup dans les modèles, mais c'est une piste qu'ils explorent. Il y a aussi la responsabilité des usages néfastes de l'IA qui serait la responsabilité, en fait, des développeurs du modèle et non pas des utilisateurs finaux ou même des business finaux. Là aussi, il y a des choses à dire parce que, bon, est-ce que l'usage néfaste, pas forcément criminel, mais néfaste, est la responsabilité vraiment du développeur de l'outil ou est-ce qu'il faut... Il y a des choses à discuter là-dessus. D'autres choses encore, les chatbots devraient informer leurs utilisateurs qu'ils ne sont pas des véritables personnes. Donc, plus de clarté pour les utilisateurs, ou encore des choses comme le fait de bannir l'IA prédictive pour les questions de police. C'est-à-dire que, en gros, c'est un petit peu Minority Report, c'est interdire le pre-crime, le fait d'arrêter, de signaler le potentiel d'un crime ou d'un acte criminel, grâce à l'IA en tout cas. Bon, il y a plein de choses, comme vous le voyez. Moi, je pense que, comme je le disais depuis des mois maintenant, c'est important et nécessaire qu'on s'y intéresse. Je me demande quelle est votre vision là-dessus. Je vais peut-être donner la parole à Jeff, qui vit dans un pays et qui est citoyen d'un pays maintenant, où on n'aime pas du tout les lois et les règles, justement, et où le gouvernement, moins il s'en mêle, mieux on se porte. Qu'est-ce que tu penses de ce type d'approche de régulation de l'IA, Jeff ?
Je suis d'accord avec toi, c'est nécessaire, il faut mettre des barrières. Le problème, c'est que
la plupart des gens qui vont établir ces règles ne comprennent pas vraiment la problématique, l'IA, le machin, le truc. Et donc, ça revient en fait à un article qui a été publié il y a cette semaine où, qui disait que quand tu es un service, un servant civil, quelqu'un qui bosse pour le gouvernement à Singapour, tu peux très bien gagner beaucoup d'argent, le Premier ministre il se fait 3 millions de dollars, etc. Donc ça veut dire que t'as des gens qui sont vraiment très bons et vraiment très, très intelligents qui vont bosser pour le gouvernement, et malheureusement, aux États-Unis, et je pense en France aussi, c'est plus, tu te dédies à ça, mais les meilleurs cerveaux sont pas forcément dans le domaine. Et donc le problème, et on voit ça en fait dans les initiatives de régulation qui commencent aujourd'hui à se pointer aux États-Unis, c'est que ce sont des problèmes très complexes et en fait on n'essaie pas franchement d'adresser le problème dans sa totalité, sachant que c'est très compliqué. Et donc si on doit se retrouver avec des régulations à la mort-moelle-neuve venant de la communauté européenne, un peu comme les cookies, je veux dire, ça va être pénible, quoi.
Bah, sur le RGPD, je trouve... Enfin, tu parles des cookies, c'est parfait, parce que c'est justement le RGPD dont on peut parler en comparaison. C'est vrai que c'est un petit peu pénible d'avoir à cliquer sur « je refuse » ou machin pour les cookies, mais c'est une petite partie du RGPD qui est visible, mais c'est une petite partie, et justement, je trouve que hormis cette pénibilité qui est... Bon, peut-être qu'il faudrait revoir un peu, même si ça ne me paraît pas complètement aberrant de dire on doit informer les gens des cookies qu'on utilise et leur laisser la possibilité de ne pas les utiliser. Peut-être qu'il ne faudrait pas un écran sur chaque site qu'on va visiter, mais un endroit bien identifié pour modifier les préférences, peut-être. Mais au-delà de ça, le RGPD est quand même assez pointu et assez bien fait. Et ce qu'on voit... Enfin, je sais que tu illustres bien mon propos. Aux États-Unis, on est très, très méfiant du gouvernement. Moi, je ne souscris pas vraiment à cette idée. Je trouve que, évidemment, les élus ne sont pas forcément des experts dans tous les domaines sur lesquels ils doivent légiférer. C'est impossible d'être un expert dans tous les domaines qu'on doit régler. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des aides ou des experts qui vont les conseiller. Là, en l'occurrence, les choses qu'on a vues fuiter, qui ne sont pas le texte final, hein, qui sont juste des petites pistes, ça ne me paraît pas déconnant. C'est pas très précis, il faudra certainement voir le texte final, mais j'ai un petit peu plus confiance que toi. Et puis surtout, si on le fait pas de cette manière, entre parenthèses, le RGPD effectivement est repris un petit peu partout, mais si on le fait pas par ce biais, on le fera pas du tout. Donc oui, moi je pense que c'est ok, c'est peut-être pas le meilleur moyen, le moyen idéal, mais c'est peut-être le moins pire, comme souvent en politique.
Ouais, non, c'est le problème, effectivement. C'est soit tu essaies de mettre en place des règles aujourd'hui sans vraiment avoir une bonne idée de comment la technologie va être utilisée et abusée. Mmh. D'accord ? C'est les deux problèmes. Soit tu attends de voir, ce qui est un peu l'approche américaine, typiquement, c'est on attend de voir, et puis après on légifère. Et des fois, on se retrouve dans une situation, par exemple, le monde du crypto, où tu as l'industrie qui va d'un côté et tu as le régulateur qui va de l'autre côté. Donc ce sont des problèmes très complexes. Et ce que j'espère, c'est que en fait l'industrie va être suffisamment intelligente pour ne pas faire ce que l'industrie de la crypto a faisait au tout début, c'est free for all, c'est on fait ce qu'on veut, allez vous faire mettre, on veut pas de régulation, c'est le Far West. Et donc il faut que l'industrie de l'AI en quelque sorte s'autorégule ou en quelque sorte définit ses propres barrières.
Ouais. Ça serait sans doute une manière importante de gérer les choses. Marion, tu en penses quoi de toute cette histoire ?
Moi, je suis comme toi, je suis plutôt optimiste, mais je vis en France, donc j'ai pas la même méfiance. Je suis plutôt optimiste, je me dis que c'est une chouette opportunité pour les professionnels et les experts de l'intelligence artificielle d'être comme consultants ou d'accompagner justement les régulateurs sur cette définition de ce cadre légal. Je pense qu'il y a vraiment une vraie opportunité aussi pour montrer toutes les problématiques soulevées par cette course à l'intelligence artificielle que l'on peut voir aux États-Unis pour potentiellement penser à quels seraient les impacts en Europe, comment on peut garantir notre souveraineté avec l'intelligence artificielle, notre souveraineté européenne sur ce sujet. Et je pense que de réfléchir dès maintenant à un cadre légal avec les experts, et je suis d'accord là pour le coup avec Jeff, pas potentiellement juste ceux qui régulent, mais les experts du domaine, pour réfléchir ensemble à qu'est-ce qui pourrait fonctionner et poser des bases saines pour le développement de ce nouveau business et de cette nouvelle technologie. Donc je suis plutôt très intéressée. Et pour une fois, on peut reprocher à des fois qui prennent un peu leur temps pour réfléchir à ça. Là, oui. Je trouve quand même... certes, ça n'a pas été fait en janvier ou en décembre, mais voilà, ils n'ont pas attendu un an avant de s'y mettre. Et donc, c'est plutôt encourageant, encore une fois.
On verra quand les lois seront effectivement établies. Là, on est à un stade de réflexion, mais c'est ce qu'il faut faire, effectivement. À la limite, commencez à y réfléchir maintenant. Ne vous pressez pas pour sortir des lois, comme le disait Jeff. Il faut qu'on voit un petit peu, peut-être, potentiellement, peut-être qu'il y a des grands jalons qu'on peut poser dès maintenant, mais voir un petit peu où va la technologie, mais commencer à y réfléchir, c'est important. Et puis, on voit, il y a des gens qui diraient peut-être... Enfin, on voit que l'UE, tu parlais de la suprématie, mais de l'autonomie.
La souveraineté.
La souveraineté, merci. De l'UE, il y a aussi le fait de défendre les intérêts des citoyens et des business européens. Certains pointeront du doigt, par exemple, le fait que si on déclare l'utilisation du matériel copyrighté, du matériel protégé par le droit d'auteur... c'est une l'idée est effectivement de protéger l'industrie de la création de contenu traditionnel, hein, les auteurs, et ça protège la chasse gardée d'une certaine industrie en France et en Europe. Oui, peut-être. Et certains pointeront peut-être du doigt une similarité avec Google, où les sites de presse voulaient être rémunérés par Google pour l'utilisation de leurs titres dans Google News, par exemple. Je crois que la comparaison se comprend, mais on est dans un domaine complètement différent, on est dans une utilisation complètement différente. Avec Google, et j'espère que les gens s'en rendront compte, mais je le précise quand même, avec Google, on était dans une situation où Google, oui, fournissait un service, mais surtout envoyait du trafic au site de presse. Et donc, ils voulaient un petit peu le beurre et l'argent du beurre. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas tout à fait fait de cette manière au final. Là, on est dans un domaine où l'IA se sert de tous ces contenus. Alors, on pourrait arguer du fait que, bah oui, c'est la connaissance générale du monde. C'est des contenus qui sont disponibles dans la société. Et l'IA s'entraîne dessus pour créer quelque chose de nouveau, comme le ferait une personne qui s'inspire de beaucoup de choses. On peut défendre cet argument. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail copyrighté est complètement noyé dans le modèle, sert très certainement à la construction du modèle, et ce qui est ressorti n'est plus traçable avec l'IA. Donc la discussion, pour moi, est beaucoup plus légitime. Et d'ailleurs, ça peut créer des modèles qui sont faits de manière clean pour l'utilisation commerciale ensuite, ou l'utilisation tout court, où justement, ils ont payé les contenus qu'ils ont utilisés, ou les créateurs de contenu pour le contenu qu'ils ont utilisé, ou utilisé des contenus uniquement en libre accès, en disponibilité, dans le domaine public, voilà, j'y arrive. Et donc, oui, pour moi, il y a une vraie légitimité à cette demande. Je vais quand même casser un petit peu nos beaux rêves à tous, parce que ce qui est en train de se passer ensuite, c'est que les sociétés honnêtes, sérieuses, vont peut-être devoir se plier à ce genre de choses, mais on commence déjà à voir des modèles qui sont entraînés, et comme on en parlait les semaines précédentes, entraînables sur un ordinateur complètement normal, un ordinateur de bureau, puissant, mais tout de même, et utilisable sur un ordinateur de bureau. On a par exemple Databricks, une société qui a publié DALL-E 2.0, qui est la nouvelle version de leur ChatGPT-like. La première avait été publiée il y a 2 semaines seulement. Et pourquoi ils en ont publié une nouvelle? C'est parce qu'il a été entraîné sur un nombre très restreint de données, 15 000 morceaux de texte qui ont été générés uniquement par leurs employés. Alors, ça ne sera pas aussi bon que ChatGPT, mais selon eux, le résultat est quand même surprenant pour un nombre une quantité de données limitée, et surtout, c'est entièrement utilisable sans avoir de risque commercial. Il n'y a pas de données utilisées à partir de données copyrightées, etc. Et c'est très facile à utiliser pour n'importe qui, et c'est disponible à n'importe quel développeur. Après, il y a plein de news dans ce domaine. Donc, l'IA à la maison, Et le ChatGPT, il y avait déjà des modèles de ce type-là pour l'image ou même pour le texte, mais là, c'est un ChatGPT-like. C'est vraiment une IA conversationnelle. Il y a un terme technique que je vous épargne. Mais enfin, c'est le instruction following, c'est-à-dire qu'on donne une instruction et il suit. Et ben, ça arrive aussi dans ces versions qui sont utilisables par n'importe qui. Et puis, il y a aussi les difficultés qui commencent à arriver. On a plusieurs articles qui font état de ce genre de choses. Certains sont dans la newsletter que je vous invite à aller checker. Reddit, eh ben, il y a des modérateurs qui commencent à expliquer que sur Reddit, le spam est complètement hors de contrôle. Il y a toujours eu du spam, mais maintenant, le volume est vraiment difficile à gérer parce que c'est écrit par ChatGPT. Il y a un article intéressant sur ce sujet. En Chine, des illustrateurs dans l'industrie du jeu vidéo commencent à expliquer que leur travail a été véritablement affecté parce que, bah évidemment, une illustration faite avec IA, ça prend 2 minutes à faire. Alors, soit il y a des illustrateurs freelance auxquels on ne demande plus de faire une illustration complète pour un jeu, mais simplement de retoucher un petit truc qui a été généré par une IA, genre tu me refais les mains, tu me refais machin, ça rapporte beaucoup moins, évidemment. Ou alors des illustrateurs qui disent on était 10, bah maintenant on est 2 et on utilise l'IA dans une boîte. Alors, c'est un petit peu particulier en Chine, hein, d'une part parce que l'industrie du jeu vidéo a été malmenée par le blocage des jeux vidéo de 2021 qui a duré 1 an et demi, ça a beaucoup malmené l'industrie là-bas. Et puis, ils sont peut-être dans un domaine où les joueurs sont moins regardants à la qualité, et même eux disent ouais, enfin, les trucs par IA, ça se voit, c'est un petit peu saoulant, on espérerait que les gens payent leurs illustrateurs. Bref, c'est un domaine un peu particulier, mais il n'y a aucun doute que ça a déjà un impact. Et d'ailleurs, il y a une chanson, on parlait de chanson la semaine dernière, une chanson qui est devenue virale sur les réseaux sociaux, dont l'auteur a utilisé des voix synthétisées de Drake, The Weeknd et d'autres. Et évidemment, ils n'étaient pas du tout contents, mais c'est encore un exemple du fait que bah, ça y est, les applications, c'est tout de suite, quoi, de l'IA. Et les problèmes. Les problèmes, c'est tout de suite. C'est quoi ? C'était le changement, c'est maintenant. C'est, avec l'IA, c'est les problèmes, c'est tout de suite. Voilà pour l'IA.
C'est dur, c'est négatif.
Ouais, c'est peut-être un petit peu négatif, mais en même temps, on a suffisamment expliqué aussi dans l'émission, j'espère, les possibilités qu'offre l'IA. Donc, j'espère que ça ne sera pas uniquement... Toi, je sais que tu aimes bien et que vous l'utilisez beaucoup, donc... Bon.
On explore beaucoup. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'on l'utilise beaucoup, mais on explore beaucoup.
Ce que j'aimerais bien voir, c'est le résultat de ce Dolly 2.0, un ChatGPT disponible en complètement sûr à utiliser commercialement, entraîné sur 15 000 textes seulement, et utilisable, enfin disponible pour n'importe quel développeur. J'aurais très curieux de voir ce que ça donne. Et donc, la raison pour laquelle je parlais de celui-là, c'est que oui, les OpenAI, les Midjourney, tout ça, ils vont devoir se plier aux règles de l'UE. Mais les gens qui auront un modèle qui tourne sur leur PC, soit pour troller, soit pour harceler, soit pour le fun, hein. Il y a plein de gens sur le Discord qui ont installé, comme je le disais, des modèles de texte ou surtout d'images et qui s'amusent avec, qui explorent. Mais à partir du moment où ça s'est fait, au moment où on a un ChatGPT qui peut tourner sur ton PC, ça complique tout, quoi. Les règles, elles s'appliquent pas aux tout petits qui sont... Enfin, si, bien sûr, elles devraient s'appliquer, mais... Bon. Marion, j'imagine bien que vos explorations, tu vas commencer à mettre Dolly 2.0 et essayer d'aller voir comment tu peux troller autant que possible sur Twitter. Je vois bien que tu vas aller faire ça.
C'est tout moi, ça.
C'est tout toi. Mais t'imagines, les gens se mettent à tweeter automatiquement entre eux avec des ChatGPT locaux. Et Elon Musk utilise ce contenu de Twitter pour entraîner sa propre IA qui va du coup générer des contenus. Oh, c'est la boucle totale. Qui va ensuite écrire des trucs sur Twitter.
Bah, c'est bien parce qu'Elon Musk pourra justifier, pourra monétiser Twitter par des vues de pub par les bots.
Mais c'est vrai. Bon, en même temps, je ne l'ai pas mentionné, mais avec les API limitées, c'est hyper compliqué d'avoir des bots sur Twitter aujourd'hui. Donc, peut-être que tout à coup, les règles sur ce point vont se détendre et qu'on va voir « Ah, mais regardez, la pub marche super bien sur Twitter !» les IA, ils ne regrettent pas leur temps passé sur Twitter. Donc, c'est peut-être de ça qu'ils parlent dans ces métriques.
C'est ça. C'est les marques qui vont être contentes.
Ouais. Elles se sont déjà faites avoir par Facebook et Zuckerberg. Peut-être qu'elles ne seront pas contentes que ça se reproduise. Bon, on va passer aux news et rumeurs rapides d'avance.
Est-ce que le bot Patrick va être capable de préparer et d'auditer le rendez-vous texte de manière à ce que tu puisses...
Écoute, le bot Patrick, figure-toi que l'un des objectifs de Battle 4, c'est que je crée un meilleur Patrick par IA. Il faut que je fasse tout, hein, la voix, le compte, les Twitter, un meilleur Patrick. Donc, on verra ce que ça donnera. Peut-être que je vais entraîner un chat GPT pour qu'il corresponde.
Toi qui prépare le rendez-vous tech quand même toutes les semaines avec, vous ne le voyez pas, mais une collection de liens incroyable chaque semaine. Moi, je le fais une fois par mois, donc ça me va. Et encore, je me limite à deux pavés de liens. Est-ce que toi, tu n'utilises pas l'intelligence artificielle pour dire « Hey, il y a ces liens, ces articles qui ont l'air intéressants, fais-moi un petit résumé. » Est-ce que tu ne le fais pas, Patrick ?
J'ai testé un petit peu. Pardon, Jeff ?
Ça, ce serait une très bonne application de l'IA. Et on commence à voir des plans qui viennent donc sur nos... en gros, des startups qui veulent essayer justement de prendre la totalité des informations qui arrivent et qui font un sommaire et après qui te disent voilà les plus intéressantes, voilà les plus celles qu'il faut suivre, etc., etc. Le problème, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup d'argent à faire. J'ai déjà essayé suivant les années précédentes en utilisant d'autres technologies et ça a jamais donné des startups qui étaient super intéressantes. Twitter, en fait, on a racheté une d'ailleurs. Mais ce sera utile.
Bah, c'est le genre de choses auxquelles je réfléchis effectivement. J'ai essayé un petit peu avec Bing, enfin avec Edge et Bing sur le côté. C'est pas encore complètement satisfaisant. Et ce que je fais, bon, je lis quand même les articles. Il faut avouer que quand j'ai, je sais pas moi, 800 articles à passer en revue dans la semaine, certains je les lis en diagonale, donc si j'avais un petit résumé. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il faut aller vérifier l'info que t'as donné l'IA. Peut-être pour le résumé, quand t'as lu l'article et le résumé, plutôt que moi, je déblatère pendant 15 minutes pour essayer de vous résumer toutes les infos. Mais en même temps, c'est aussi ce que vous voyez pas, c'est que quand je vous fais un petit résumé de 5 minutes, c'est souvent pas juste un article que je résume, mais 4 ou 5 en liant les sujets entre eux, en essayant de faire que ça flow bien dans la conversation, tout ça.
Alors du coup, je prévois une battle entre le vrai Patrick qui te fait un résumé d'un sujet avec qui combine plusieurs articles sur le même sujet et un bot Patrick qui fait
oui.
ça.
Écoute, peut-être que pour Battle 4 2024 l'année prochaine, on fera qui vous préférez en podcasteur, bot Patrick V4 ou.
Mais il faudra la voix de synthèse aussi. Hein,
ah oui, mais
parce
on
que
y est.
Sans la voix de Patrick, c'est pas possible.
Bien sûr, mais tu sais, je sais pas si t'as vu, mais j'ai fait une voix de synthèse de Patrick en anglais. Le problème, c'est que mon accent est pas tout à fait adapté. Et c'est pas tout à fait adapté à l'anglais, mais la boîte que j'ai utilisée, le service que j'ai utilisé, va bientôt sortir le truc en français. Et là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
J'ai pas vu ça, ça m'aurait fait rire.
Je t'enverrai le lien. Je ne sais pas si je vais réussir à le retrouver. Bot Patrick.
Bot en plus, Patrick, ça marche tellement bien, Bot Patrick.
Bah oui, non, mais c'est...
Avec notre Patrick, Bot Patrick.
Tu sais qu'il y a Bot Patrick sur le Discord, qui fait plein de trucs. Et parfois, on se rend pas compte. 11 Labs, c'était le nom de la boîte que...
On pourrait te reprocher même d'être consciemment misleading de... Ah, je sais pas comment dire ça en français, mais...
De pas dire que je suis...
Oui, voilà, parce que Bot Patrick et Not Patrick, pas sûr que les gens lisent
bien. Oui, mais tu vois, c'est fait exprès. Je te retrouverai, je t'enverrai le lien. J'avais fait un tweet avec ma voix en anglais. C'était rigolo. J'en parlais la semaine dernière pour... je l'avais fait écouter la semaine dernière. Bon, donc, écoutez, ce qui reste, c'est le reste de l'actu. Je vais juste mentionner très rapidement que si vous appréciez cette émission, Bot Patrick, il n'est pas encore là et donc je dois encore travailler, malheureusement, pour faire cette émission. Donc, vous pouvez soutenir sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Et sans vous, Bot Patrick ne verra jamais le jour. Donc, peut-être qu'il faut soutenir pour que Bot Patrick arrive et que je puisse arrêter de travailler pour ce podcast. Je ne sais pas si c'est un bon deal que je suis en train de faire. Soutenez, on verra après. patreon.com/rdvtech.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
T'as tendance donc, à te saper toi-même ouais, quand même, hein, entre les pompes et le bas de Patrick.
Je ne sais pas si je vais survivre à Battlefort, moi, dans ce titre, avec tout ça. Biril, c'était la coqueluche des jeunes il y a un an. Visiblement, la monotonie s'installe. Vous vous souvenez, c'est l'app qui vous demande de prendre un double selfie, enfin un selfie et une photo de devant, de manière naturelle. Tout à coup, là, vous avez la notification et puis dans les 2 minutes, il faut prendre le truc pour que ça soit naturel. Bon, il y a 6 millions d'utilisateurs aujourd'hui contre 15 millions en octobre. J'avoue que le principe est cool, mais au-delà du fait que ça soit monotone au bout d'un moment, ils n'ont pas vraiment renouvelé. Et je ne sais pas si c'est possible à renouveler l'app ou à la rendre un petit peu excitante sans en changer la nature et donc sans en faire perdre l'intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont gardé exactement le même truc pendant, enfin, depuis qu'ils ont connu le succès. Aux États-Unis, alors, vous savez qu'il y a des employés qui se plaignent que les boîtes leur demandent de revenir pour bosser dans les bureaux plutôt que de faire tout en distanciel. Et on voit que maintenant, étant donné qu'il n'y a pas assez de gens pour faire le boulot aux États-Unis directement et les salaires qui augmentent, eh bien visiblement, de plus en plus de boîtes sont en train d'outsourcer. Après la pandémie hein, et les politiques de distanciel, et ils sont en train d'outsourcer dans d'autres pays. Encore plus que ça n'était déjà le cas aujourd'hui, parce que la pandémie a montré que ça marchait. Donc je me demande si les employés n'auraient pas... Tu parlais de se saper soi-même. Je me demande si les employés n'auraient pas intérêt à dire « Si, on revient bosser au bureau, pas de problème, parce qu'une fois que quelqu'un bosse à distance, bah, il peut bosser de n'importe où, y compris dans notre pays où ça coûte moins cher. » C'était déjà le cas pour plein de domaines, hein, mais là, c'était des domaines qui, traditionnellement, n'étaient pas dans ce genre de configuration. Quoi d'autre ? Je vous laisse intervenir.
C'est compliqué. Enfin, effectivement, une grosse partie des employeurs, sauf s'ils ont adopté donc le distanciel comme mode par défaut, auquel cas ils s'en foutent. En gros, tu vois qu'il y a quand même énormément de bénéfices à avoir des gens qui se rencontrent, qui passent du temps ensemble, qui construisent des relations. Et donc, ce que tu vois, c'est en gros, maintenant, le lundi et le jeudi, c'est obligatoire, et on vous donne à manger, machin, etc., parce qu'ici, on vous fournit des repas, et on essaie, en fait, il y a la carotte, et puis il y a le bâton, et on essaie d'utiliser plutôt la carotte que le bâton. Mais je sais qu'il y a certaines boîtes qui disent, bon, bah, les gars, Apple, Twitter, c'est... la présence au bureau est obligatoire, et si vous n'êtes pas là, vous serez viré.
Et du coup, est-ce qu'il ne vaut pas mieux accepter ça? Mais à la limite, même 2 jours par semaine, ça va, et tu sais que tu ne peux pas être délocalisé dans un autre pays, à la limite. 2 jours par semaine, s'il faut que tu sois là, bon, bah, ça va. Donc, il faut quand même stratégiquement accepter un minimum, je pense.
Ça va si tu habites à côté de ton bureau, mais durant la politique où... on était OK avec le distanciel à 100%, y a des gens qui ont déménagé. Tu vois.
Bien sûr.
Donc, après, c'est une décision aussi de vie où des gens, finalement, ne sont pas prêts à sacrifier. Et c'est quelque chose de compliqué pour les boîtes, comme l'a mentionné Jeff, et c'est quelque chose de compliqué pour chaque employé aussi, parce que ça impacte son choix de vie. Aussi.
Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que en disant non, moi je veux être en 100% distanciel, t'es pas en train de scier la branche sur laquelle t'es assise parce que justement, tu rends extrêmement simple le fait de délocaliser ton boulot dans un pays où ça va coûter la moitié du prix à l'employeur. Tu vois, ouais. C'est
après après
la dé... les excuse-moi,
vas-y. Je te coupe.
Assumant que tu puisses avoir les mêmes qualifications, la même expérience, la même expertise,
exactement.
Etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que tu vas réduire si, dans un an, d'accord. La plupart des boîtes seront revenues avec un mandat présentiel minimum. Et donc, si jamais tu dis bah non, je veux bosser que dans le remote, et bah, ça veut dire que tu devras trouver des boîtes qui sont d'accord avec ça. Et il y en aura de moins en moins. Il y en aura un certain pourcentage. Tu pourras toujours trouver du boulot. Mais effectivement, moi, je vois dans mes boîtes du portefeuille, maintenant, tout le monde dit, bah, on a un petit bureau, on essaie de se voir au minimum X fois par semaine ou par mois. Et ça a du sens. Ça a du sens, objectivement.
Netflix a eu des problèmes avec son deuxième programme live streamé en live. Il y a eu 75 minutes de décalage. Alors, c'est pas grand-chose, mais quand tout le monde au monde est réuni pour voir... Alors, c'était la réunion de Love is Blind, une réalité TV un petit peu moyenne. Mais ils ont quand même réuni... Alors, qu'est-ce qu'il y a à mon cœur ? Tu veux me faire un bisou ? Ok, bon, je suis désolé. Il y a le bisou du petit.
Non, mais c'est trop mignon.
Bonne nuit, tu dis bonne nuit aux gens sur le podcast ?
Bonne nuit.
Bonne nuit, mon ange. Bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Ouais, ça va être un événement récurrent.
C'est trop mignon. C'est trop mignon.
C'est la deuxième fois en deux mois.
C'est un guest des guests ?
Oui, oui, exactement. Mais du coup, qu'est-ce que je disais ? Netflix, bon, on a beau être Netflix, faire un live, c'est pas si facile que ça, on le comprend bien. Spotify est en train de changer de stratégie avec son paywall pour les podcasts, enfin son exclusivité pour les podcasts, ben on s'est rendu compte que ça marchait pas tant que ça. C'est difficile de changer une industrie qui a déjà pris ses habitudes et qui a déjà ses modes de fonctionnement, et ils sont en train maintenant du coup d'ouvrir l'exclusivité des podcasts. Ils sont plus, en particulier pour Gimlet, ils ont payé quand même 230 millions d'euros pour Gimlet en 2019, une boîte de production de podcasts, et donc il y aura moins de podcasts exclusifs à Spotify, et les clauses d'exclusivité seront moins contraignantes pour les podcasts qu'ils acquièrent ou qu'ils récupèrent. Parce que ça ne marche pas. Les podcasts exclusifs, ça ne marche pas vraiment. On a aussi, au niveau du streaming toujours, Apple TV qui va être gratuit avec les offres Canal+, dans pas longtemps, c'est le mois prochain je crois, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, profitez-en, Apple TV Plus, les amis, il y a tellement de belles choses. Au hasard, bon, Ted Lasso, tout le monde connaît, mais Shrinking, incroyable série.
Ah non, attention, je ne l'ai pas encore commencé, elle est sur ma liste là.
Ah d'accord, je dis rien, mais c'est vachement
mais Severance.
Bien.
Severance. Incroyable.
Il y en a plein. Pachinko, incroyable Pachinko. Bon, bref, vous pourrez tous en profiter et je suis content. Le truc plus important chez Apple, c'est qu'il y a pour la WWDC des rumeurs sur ce qui va être présenté. Alors, ce qu'on a aujourd'hui, c'est plusieurs MacBooks, potentiellement un MacBook Air 15 pouces et surtout un focus sur WatchOS 10 et effectivement la présentation du casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, qui serait présenté à la WWDC. Il y a des gens qui ont des idées, Min-Chi Kuo et Gurman ne sont pas d'accord en gros, mais peut-être que Min-Chi Kuo dit ça ne serait pas avant 2026, mais peut-être que c'est pour un autre modèle, on ne sait pas. Selon Gurman, les dernières infos, ça serait effectivement présenté, ça serait un modèle autonome qui n'a pas besoin d'être connecté à un téléphone, mais qui aurait une batterie à la ceinture et qui serait très cher bien sûr, on verra ce que ça donnera. Et à côté de ça, j'ai dans la newsletter des news hyper intéressantes, comme par exemple la manière dont Apple réussit à capturer le marché bas de gamme d'Android, qui était traditionnellement chez Android, c'est essentiellement aux US, mais en gros, c'est en assurant la maintenance et la pérennité des appareils sur le long terme, alors long terme, on parle de 5-6 ans, et ben, ils récupèrent le marché des appareils d'occasion, des appareils qu'on donne aux enfants, à la famille, etc. Et donc, les téléphones qui étaient traditionnellement des appareils bon marché chez Android sont souvent maintenant des iPhones anciens. C'est un article intéressant. Il y a d'autres articles comme le cheminement des Pentagon Leaks, c'est incroyable. Ils sont passés par Discord, Telegram, etc. Plein d'autres choses comme ça dans la newsletter que je vous invite à aller. Vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com où le lien est dans les notes de l'émission. Je crois que c'est tout. On a fait le tour en moins d'une heure. Incroyable. Et du coup, je peux vous remercier de votre participation à cette émission et vous demander où on peut vous retrouver. Jeff, où es-tu ? Alors là, tout de suite, tu nous dis à San Francisco, mais sur Internet, est-ce que tu es présent ?
Mon AI est là, ouais. je suis encore sur Twitter, même si je me tâte d'aller ailleurs, parce qu'il commence à me péter les couilles, l'autre, là.
Il n'y a pas d'alternative. Enfin, tu peux aller sur...
Bah non, je sais bien. En fait, je poste sur Instagram et puis sur Facebook. Ouais. De toute façon, je passe pas beaucoup de temps à parler sur Twitter parce que de toute façon, mon boulot, c'est d'aider les boîtes et pas d'avoir des gens qui m'écoutent sur Twitter. C'est un rappel aux gens du VC. C'est parce que les investisseurs nous payent pour, c'est vraiment d'aider les boîtes. Mais bon, à part ça, c'était un plaisir comme d'habitude. Et puis, je vais vous laisser parce qu'il est 10h. Ah,
c'est l'heure. Maintenant. Super. Merci beaucoup, Jeff.
Et on à bientôt, à dans un mois. Gros
à dans
tous.
Un mois. Ciao, ciao.
Allez, salut, Jeff.
On mettra le lien vers le compte Twitter de Jeff dans les notes de l'émission, évidemment. Marion, quand tu n'es pas en train de regarder... Alors, t'as vu Pachinko ou pas encore ?
Non, je ne l'ai pas vu encore. J'ai vu The Bear sur Disney+. J'ai fait du rattrapage.
On m'en a dit tellement bien. C'est vraiment bien, The Bear, c'est à voir ?
Ouais, c'est vraiment bien. T'as pas envie de quitter les personnages. C'est vraiment très bien filmé, très bien raconté. Les acteurs sont formidables. La musique est incroyable. Petite dédicace à l'épisode qui commence par un lancement de radio avec un titre merveilleux d'un artiste que j'adore. Bref. Oui, vas-y. Mais du coup, Shrinking, c'est sur ma liste.
Tu sais que voilà. C'est une partie de l'équipe de Ted Lasso. Hein.
Mais oui, je sais. C'est en plus, c'est l'acteur là qui fait tout le temps la gueule que j'adore.
Il est génial.
Non, l'autre, celui qui fait tout le temps la tête là, le footballeur à la retraite.
Ah oui, il joue pas dedans. Il joue pas dedans, mais il est. Il fait
oui, mais il a participé à l'écriture.
Tout à fait, ouais. Mm-hmm. Ouais, Roy.
Donc,
he's here.
Ouais, voilà, he's exactement.
There. He's every fucking where. Roy Kent. Oui, tout à fait, c'est lui.
Donc, j'ai absolument envie de la voir et surtout j'ai entendu une critique qui résumait qu'il y avait la même bienveillance dans Shrinking que dans Ted Lasso sur un sujet donc particulier et donc rien que pour ça, ça me donne envie de regarder.
Ouais. Non mais c'est pas tout à fait la même chose. On va pas partir dans des longues discussions. C'est pas tout à fait la même chose. mais ça évoque le même genre de sentiment et moi je la recommande et elle est moins connue que Ted Lasso, c'est dommage parce que il y a tellement peu de choses qui sont Ted Lasso-esques et les gens qui cherchent un petit peu plus de Ted Lasso dans leur vie, bah Shrinking leur donnera un équivalent à ce sentiment donc
avec Harrison Ford.
Avec
il est
Harrison
partout.
Ford. Oui. Qui est assez bon, je vais pas en dire plus. Très bien.
Bref. Donc voilà. et donc du coup, j'étais censée dire où me retrouver, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Donc au fait, vous pouvez me retrouver sur Twitter à Aizea Design et sinon tous les mardis matins à 8h sur Twitch pour Naotech Team et le débrief de l'actualité tech.
Magnifique, merci beaucoup Marion. Pour ma part, c'est Not Patrick et pas Bot Patrick. Malheureusement, Bot Patrick est pris sur Twitter. Hein. J'ai regardé, mais il faudra trouver un autre nom. Not Patrick sur Twitter et un petit peu partout. Et vous avez les liens vers tout ce que je fais sur, dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Les deux fonctionnent. Il y a d'une part le Discord où on se retrouve toujours. Alors, je n'aurai pas le temps de faire un after show IA, malheureusement, après l'avoir annoncé les after shows sur l'IA la semaine dernière. Mais dans le Discord, il y a toujours le channel Test IA. Il y a plein de gens qui sont venus et c'est vraiment intéressant à regarder. Si vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne, ben c'est un lieu où vous pouvez le faire avec peut-être plus de facilité qu'ailleurs. Et l'autre lien que je vous recommanderais, c'est évidemment Twitch. Non pas pour l'enregistrement des émissions, mais pour Battle for, donc ce week-end, du 21 au 23, vendredi soir, on sera en live et on verra combien de pompes j'aurai à faire. Mais chaque pompe est un euro pour la bonne cause, tu vois, donc c'est bien.
Ah non, mais ça, je vais suivre.
Donc, sur twitch.tv/notepatrick, il va falloir que je trouve un moyen de mettre la caméra sur l'endroit où je fais les pompes aussi. Bon, on va y penser. et twitch.tv/notepatrick, le lien est dans les notes de l'émission. Et bien sûr, patreon.com/rdvtech pour soutenir financièrement le rendez-vous tech. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne, a priori, si je survie au week-end, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous et à toutes.
Ciao, ciao.
Ah merde, j'ai oublié de faire le générique. Faites comme si vous, chez vous, dans les transports, dans la voiture, là, faites comme si vous n'aviez pas entendu les 15 dernières secondes et on recommence. Et je vous retrouve, si j'ai survécu, la semaine prochaine. Ciao à tous et à toutes.
Ciao, ciao.